à Ligre FM 93.1, Harmonie du soir. Durant toute cette semaine, les mains ont la parole sur Ligre FM, et dans Harmonie du soir aussi. Pour évoquer à notre manière ce sujet de l'artisanat, nous nous sommes rendus dans l'atelier d'Emmanuel Fayat aux 3 rue Saint-Gilles dans le 3e arrondissement de Paris. Emmanuel Fayat est luthier, elle restaure, répare, règle, ajuste, fabrique parfois les instruments qui constituent le quatuor à cordes, violon, alto et violoncelle. L'occasion de découvrir ce métier indispensable et essentiel pour les musiciens que chaque semaine nous vous proposons d'écouter dans Harmonie du soir. Alors Emmanuel Fayat, nous sommes dans votre atelier rue Saint-Gilles à Paris dans le 3e arrondissement. Vous êtes en train actuellement de travailler sur un instrument. Pouvez-vous nous décrire ce que vous êtes en train de faire et sur quel instrument vous travaillez ?
Alors c'est un violoncelle allemand du 19e siècle qui appartient à une cliente et il a été attaqué par des vers, donc il y a des petites galeries de vers. Donc là, je suis en train d'entreprendre d'enlever le bois qui est mangé par les insectes et puis de le remplir avec une poudre de verre qu'on mélange avec de la colle et qu'on teinte. Et puis ensuite, on fait des retouches de vernis pour ne plus voir les galeries de verre.
Alors c'est vrai que quand on regarde un peu l'atelier et qu'on voit les outils, on retrouve des choses assez classique finalement. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas. On est vraiment sur une technique. Enfin, il y a peut-être un ordinateur, je l'ai peut-être pas vu. Mais...
oui, peut-être.
C'est ça. Mais en tout cas, on a l'impression effectivement d'être sur des techniques anciennes, quoi, en fait.
Oui, c'est vrai qu'on travaille. Enfin, moi ici, j'ai que des outils qui sont des outils manuels. J'utilise pas du tout de. J'ai même pas de scie à ruban. Alors, ça peut m'arriver si j'ai besoin de faire vraiment un gros travail sur une scie à ruban. J'ai un collègue qui est ébéniste dans le 11e, donc je vais chez lui, ouais. Mais c'est assez rare. Et finalement, oui, on n'a que des outils, beaucoup de gouges, beaucoup de ciseaux à bois, des rabots.
Des limes, oui, c'est ça.
Des limes, des petits rabots qui sont vraiment de petite taille, enfin certains plus gros que d'autres, mais ce qu'on appelle des rabots noisettes. Ça, c'est vraiment à l'usage de la lutherie. Je ne pense pas que ce soit utilisé dans d'autres professions. Pas ma connaissance, et ça sert surtout à... Enfin, ça sert à plusieurs choses, mais principalement, les petits rabots noisettes, c'est pour sculpter les voûtes. Mmh. Et puis, un autre outil qui est assez spécifique à la lutherie, c'est le canif.
D'accord.
C'est vraiment l'outil emblématique.
Ah oui, d'accord, oui, c'est le couteau, quoi, presque.
Voilà, c'est ça, c'est une lame qu'on insère dans un manche, et on en a un petit peu de toutes les tailles. Voilà, j'en ai beaucoup.
D'accord.
Ça sert à plein de choses, notamment à ajuster les âmes et les chevalets.
Mmh. Est-ce qu'il y a un répertoire de gestes qu'on pourrait identifier, nommer, ou chaque luthier a inventé sa propre gestuelle, sa propre gestique, je ne sais pas comment on dit ?
Non, je dirais que chacun a peut-être son coup de main, son tour de main.
Mmh. Son vocabulaire,
oui, qui lui est propre, mais c'est quand même... C'est quand même des gestes qui sont assez codifiés, qu'on apprend à l'école, qui sont transmis soit par l'école, soit par un maître d'apprentissage, soit... Donc, après, je dirais qu'il y a quand même des gestes qui marchent mieux que d'autres. Donc, je pense qu'on est... C'est pas si dissemblable. Après, c'est vrai que chacun a sa façon de travailler, quand même. Mmh. Quand on voit des amis luthiers travailler, il y a toujours des petites différences subtiles, mais...
Ici, vous travaillez exclusivement sur les cordes et donc les instruments du quatuor à cordes, c'est-à-dire le violon, l'alto et le violoncelle, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres luthiers qui peuvent travailler sur d'autres types d'instruments.
Oui, c'est vrai. Moi, c'est uniquement le quatuor. c'est, je dirais que, après, c'est une question de, on n'a pas forcément les outils. Moi, j'ai pas les outils pour m'occuper des guitares, j'ai pas non plus les connaissances. Donc, et puis j'ai déjà assez à faire avec les instruments du quatuor. Donc, y a la contrebasse. Et en général, c'est vrai que les luthiers qui sont spécialisés dans la contrebasse, ben, font essentiellement les contrebasses. Là encore, je dirais que c'est finalement c'est le même instrument, mais avec des proportions un peu différentes. Donc, il y a une question d'outillage, il y a une question de place aussi.
Pouvez-vous nous dire un mot sur ce lieu dans lequel vous êtes installé? Où sommes-nous et quand est-ce que vous vous êtes installé ici?
Alors, je suis installée ici depuis maintenant 2 ans. C'est un lieu qui est donc constitué de, aux 3 rue Saint-Gilles, il y a plusieurs ateliers d'artisans. Et j'ai un de ces ateliers. Et voilà, ça a été un petit peu conçu par la mairie de Paris pour favoriser l'artisanat d'art. L'atelier, pour moi, c'est un lieu qui est très important parce que c'est vraiment l'endroit où se concentre, ben, on a tous les instruments sur lesquels on travaille, tous les outils avec lesquels on travaille. Et c'est un lieu qui est très inspirant, qui est vraiment très personnel aussi, qui est aussi un lieu où on reçoit, bien sûr, où on invite les musiciens, on les reçoit, on aime les recevoir. Avant tout, c'est peut-être le premier des outils dont on dispose.
Alors, les instrumentistes qui viennent vous voir ici, sont-ils des habitants du quartier, de la France entière, voire du monde entier?
Alors, oui, oui, c'est ça, un petit peu de tout. Il y a des gens, beaucoup de, aussi de tous les âges. Ça peut être des élèves qui sont des élèves des conservatoires, des jeunes enfants. C'est très important de pouvoir leur proposer des instruments de qualité qui sont bien réglés pour que la pratique de l'instrument commence bien avec des instruments agréables à jouer. Et des élèves de conservatoires plus avancés, comme des élèves du CNSM, des professeurs, enfin voilà, j'ai un petit peu des gens qui sont dans des orchestres aussi, même quelques musiciens qui sont effectivement étrangers. Voilà, c'est assez varié en fait.
La violoniste Fanny Clamagiran interprétait le troisième mouvement de la première sonate d'Eugène Isaïe. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM 93.1, que vous écoutez, comme chaque semaine, le jeudi à 19h, Harmonie du soir, et que les mains ont la parole cette semaine sur la grille des programmes d'Aligre. Harmonie du soir est allée à la rencontre d'Emmanuel Faya, artisan luthier à Paris. Emmanuel Faya, pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier et comment vous y êtes-vous formé ?
En plusieurs temps. Tout d'abord, c'est par la pratique du violon que j'ai découvert la lutherie. J'ai grandi dans un tout petit village dans le centre de la France. Il n'y avait pas vraiment de luthier, mais un magasin de musique. Et puis, quand j'ai eu 12 ans, au moment de passer à l'entier, au violon entier, ma grand-mère m'a emmenée à Mirecourt et on a acheté un violon chez un luthier qui s'appelait René Morisot. Et qui était un luthier âgé dans les années 80, qui était dans un atelier qui m'a paru totalement magique. Et c'était magique aussi de comprendre que le violon est fait de la main du luthier. C'était un atelier très sombre. Je pense que l'atelier des Morisot remontait à... C'était un atelier très ancien. Les Morisot, c'était une grande famille de luthiers et d'archetiers à Mirecourt. Et c'était un atelier, je pense que les murs de l'atelier n'avaient pas vu un coup de pinceau depuis peut-être 100 ou 150 ans. Donc les murs étaient très sombres, l'atmosphère était très particulière. Lui, c'était un luthier qui était vraiment un luthier ouvrier, habillé tout en bleu de travail, le pantalon, la veste, la casquette. Et puis, il avait beaucoup d'instruments dans son atelier, beaucoup d'outils. C'était un petit atelier où on pouvait vraiment tout voir et... Voilà, je me souviens que on est resté 2 jours à Mirecourt, je suis restée 2 jours dans son atelier, ne pouvant pas décider quel violon choisir. Et d'ailleurs, un des violons que j'aurais aimé acheter avait une inscription absolument magnifique au dos, une incrustation de marqueterie qui représentait un arbre avec un oiseau. Et une inscription en latin qui disait qu'autrefois l'oiseau chantait dans l'arbre et que désormais le violon chantait dans le bois, et ça m'a vraiment transportée. Après, j'ai mis longtemps à aller jusqu'à l'idée que je pouvais devenir luthière. C'était plutôt après avoir fait des études. Donc j'avais 22 ans quand j'ai commencé la lutherie, 23 ans. Je me suis orientée vers une école en Angleterre. C'était sur les conseils d'un luthier. Qui était à Angers, qui connaissait un autre luthier qui lui-même avait fait cette école, qui était une école réputée. Donc il y a plusieurs écoles de lutherie en Europe. Une école, bon, l'école de Mirecourt bien sûr en France, l'école de Newark en Angleterre, l'école de Cremone en Italie. Moi j'ai choisi Newark parce que déjà je parlais anglais, c'était un choix simple. Et puis c'est une école qui proposait un parcours uniquement avec des cours en atelier. Donc pendant 4 ans, on apprenait à faire violon, alto et violoncelle. Et voilà, je garde un souvenir vraiment extraordinaire de ces années d'apprentissage. Ah, c'est vrai que quand on sort de l'école, on a l'impression que c'est quand même très très dense parce que pendant 4 ans, on apprend à faire violon, alto et violoncelle, mais on a très peu de formation sur la réparation, la restauration, très peu de formation sur le montage aussi et le réglage des instruments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à faire après l'école. Voilà, moi j'ai eu la chance de travailler chez un luthier qui était un luthier, je dirais, de très haut niveau. Il avait vraiment une très bonne main et j'étais sa seule employée pendant 10 ans. Donc j'ai bien appris avec lui.
Alors est-ce qu'il est nécessaire d'être musicien, instrumentiste pour être luthier? Et est-ce qu'il y a un lien entre l'oreille d'un côté et le geste de l'autre?
Oui, c'est vrai. Le lien entre l'oreille et le geste qui se fait de façon graduelle et par des connexions tout au long de sa vie. Il y a des éléments très subjectifs et puis d'autres très objectifs dans le son. Donc c'est cette combinaison-là qu'on apprend à petit à petit à analyser, à décortiquer. Je pense que c'est tout à fait possible de pas. Beaucoup de mes confrères ne sont pas, de mes collègues ne sont pas musiciens. Enfin ça, voilà, il y a un petit peu, il y a de tout dans. Il y a certains luthiers qui sont de très très bons instrumentistes. Et moi, je joue du violon, mais de façon très modeste. Malgré tout, ça m'aide pour les réglages de sonorité. Et ça m'aide aussi, peut-être parce que j'ai une espèce d'intimité avec l'instrument. Donc, oui, non, c'est un rapport qui est naturel quand on le pratique, mais qui n'est pas obligatoire. On peut très bien être luthier sans être musicien.
Alors pour continuer sur ce lien justement entre l'oreille et le geste, est-ce qu'on pourrait dire que ce qui est beau et soigné visuellement l'est aussi nécessairement sur le plan de la sonorité? Ou est-ce qu'il n'y a pas de lien finalement?
Alors si, il y a un lien, il y a un lien, c'est-à-dire que quand un luthier fabrique un violon, ça commence par le choix du modèle, par un dessin, par ensuite la fabrication d'un moule, et puis par le choix du bois. Donc un bois de qualité, un dessin de qualité, c'est la base pour faire un beau violon ou un bel instrument. Et ensuite, évidemment, chaque détail a une importance déterminante, que ce soit la conception des voûtes, l'architecture des voûtes, la découpe des F, la place des F sur la table de l'instrument. Donc tout a énormément d'impact sur le son. L'épaisseur du manche, l'angle du manche dans l'instrument, la façon dont le violon est monté aussi, le montage est très très important. Donc tous ces éléments-là qui se répercutent dans l'esthétique de l'instrument vont avoir une importance sur l'esthétique du son.
Est-ce que les techniques et les matériaux utilisés dans cette activité ont évolué au cours de ces dernières années?
On est vraiment sur des techniques qui sont très anciennes, qui sont vraiment ancrées dans. C'est un artisanat qui est séculaire, qui existe depuis des siècles. Donc on a un peu les mêmes techniques de travail, on a même totalement les mêmes techniques de travail, les mêmes outils. Évidemment, il y a aussi tout un processus de recherche et de grâce aux outils informatiques. Et aujourd'hui, dans la restauration, que ce soit dans la restauration ou dans la fabrication, on peut s'appuyer sur ces outils-là ou pas. Je dirais que ça dépend un peu de la sensibilité et de l'accès qu'on a à ces outils, parce que c'est des outils qui sont assez onéreux, qui sont aussi compliqués à comprendre, à utiliser. Donc c'est tout un travail pour s'y initier. Mais on peut, si on n'a pas cette sensibilité-là de la haute technologie, travailler comme les luthiers du XVIIIe siècle et travailler à un très bon niveau.
Thank you. venez d'entendre le deuxième mouvement Andante du quintet en do mineur Köchel 406 de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété par le quatuor Talisch et Karel Reak au deuxième alto. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM 93.1 et que nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Faya, luthier à Paris, dans le cadre de cette semaine thématique consacrée à l'artisanat.
On peut très facilement reconnaître un instrument fait au 19e siècle ou par exemple un instrument qui est fait en 1830 ou un instrument qui est fait en 1850, il y a une différence stylistique qui est énorme. Donc évidemment que les époques ont des répercussions sur le style de la fabrication. Effectivement, il y a des courants esthétiques qui correspondent à la période de fabrication. Donc on peut tout à fait voir les différences de style entre un violon qui est fait il y a 30 ans ou aujourd'hui. Mmh. Il y a des évolutions qui sont marquées dans le temps.
Et justement, sur des instruments qui seraient fabriqués aujourd'hui, est-ce qu'il y a des courants au sein de la lutherie elle-même? Est-ce qu'on reconnaît que ça vient de telle technique de fabrication, de tel luthier? Ou est-ce qu'il y a une sorte d'homogénéité dans les façons de faire?
Alors c'est vrai que les luthiers s'influencent beaucoup les uns les autres. Après, chacun a sa main, chacun a son style et sa sensibilité. Et il y a quand même des luthiers, dans chaque génération, il va y avoir quelques luthiers qui sont vraiment des personnalités marquantes et qui sont des gens qui sont un peu comme des... Je ne suis pas sûre que le mot leader soit très adapté, mais qui sont des gens qui marquent leur génération. Mmh. Parce qu'ils ont un talent certain, et puis parce qu'ils ont formé aussi beaucoup de gens. Voilà, donc ça va être un peu... Peut-être que plus tard, on pourra dire que c'est l'école d'un tel. Ou... Mmh. Et puis, il y a des gens qui sont aussi des maîtres d'art, qui sont des formateurs, donc qui enseignent d'une certaine façon.
Et donc, ils ont une influence
Ils ont une influence sur... Oui, tout à fait. Donc, oui, on peut repérer des styles.
Emmanuel Faya, à quelle fréquence les instrumentistes viennent vous voir ?
Certains viennent très régulièrement et d'ailleurs c'est l'occasion aussi de nouer des amitiés. Beaucoup de musiciens sont devenus au fil du temps des amis. Voilà, donc effectivement en fonction de la fréquence aussi, on a des musiciens qui sont des musiciens amateurs et qui viennent pour une révision chaque année ou tous les deux ans. Et puis certains musiciens ont vraiment besoin d'être soutenus dans leur pratique et viennent pour faire des réglages assez fréquemment, pour changer les cordes assez fréquemment. À chaque changement de corde, il faut aussi vérifier l'angle du chevalet, la position de l'âme, les réglages d'âme aussi. C'est souvent au moment où le temps change, au moment des changements de saison, on a besoin de faire une âme soit un peu plus longue ou un peu plus courte, parce que l'instrument bouge, les tables bougent, et donc ça doit être vérifié.
Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre parcours, mais de façon plus générale, comment on peut se former à ce métier pour quelqu'un, un jeune, par exemple, qui aurait envie de se lancer dans cette activité? Et est-ce que c'est une activité aussi à laquelle on peut se former à l'âge adulte?
Ah oui. Alors, c'est bien de passer par une école. Alors, il y a toujours la possibilité de faire un apprentissage, mais l'école, je dirais que le gros avantage des écoles, c'est qu'on n'est pas dans un seul... On n'est pas... dans cette peut-être parfois trop grande promiscuité avec une personne, On est vraiment avec un ensemble de professeurs et un ensemble d'étudiants. Donc on se crée aussi un groupe d'amis, de gens avec qui on va pouvoir travailler ensuite. Et puis à l'école, on n'est pas soumis à des conditions de rentabilité, à des conditions de... Il y a une exigence, bien sûr, mais c'est pas la même chose que de travailler chez quelqu'un. Je dirais que ça, c'est bien de le garder pour après l'école. Et puis sur la formation, par exemple en France, on a la chance d'avoir une association de luthiers qui s'appelle l'ALADFI, qui mène des formations, qui conduit des formations chaque année. Donc ça, c'est vraiment une chance, une très grande chance qu'on a en France, mais aussi pour les luthiers étrangers, c'est ouvert à qui veut participer. Donc on peut se former toute sa vie si on le souhaite. On peut se perfectionner, apprendre beaucoup de choses. Moi, je participe beaucoup régulièrement à ces formations, dès que je peux, dès que j'en ai la possibilité, parce que c'est très enrichissant de se retrouver avec des collègues et puis de pouvoir approfondir, se perfectionner. Les techniques de restauration changent, évoluent plutôt. Il y a de nouveaux outils, de nouvelles techniques qui voient le jour. Et donc, si on veut les connaître et apprendre à les maîtriser, c'est bien de pouvoir faire ces formations qui sont proposées par les associations luthiers.
Et comment vous pourriez décrire une semaine type de travail? Est-ce qu'il y a différentes étapes, différentes phases, des temps qui sont consacrés à telle ou telle activité?
C'est très varié. Là, par exemple, j'ai un violoncelle que je suis en train de restaurer, et avec un violoncelle du XVIIIe siècle, des cassures de table, un rebarrage. J'ai ce violoncelle sur lequel je refais des retouches de vernis sur des galeries de verre. Plusieurs montages pour une jeune femme qui cherche un nouveau violon. Donc je lui propose des instruments que je vais monter spécialement pour elle. C'est toujours un peu différent finalement. Parce que chaque opération appelle à des techniques différentes, des utilisations d'outils différents, donc il y a une grande variété. On s'ennuie rarement.
Thank you.
La septième sonate, Largo, extrait des sept dernières paroles du Christ de Joseph Haydn, interprété par le quatuor Isaïe.
Pour fabriquer un violon, c'est de l'épicéa pour la table, de l'érable pour le fond ou le dos. Fond et dos, c'est la même chose, c'est deux façons différentes de le dire. Les éclisses et le manche, la tête. Après, pour tout ce qui est accessoire, on utilise beaucoup l'ébène, donc la touche. Mmh. Les chevilles sont souvent en ébène. Ça peut être aussi du palissandre ou du buis. Et tout ce qui est petits accessoires comme le scié, scié du haut, scié du bas, c'est de l'ébène. Voilà, donc quelques bois exotiques et puis et des bois blancs qui sont ensuite vernis.
Comment vous pourriez qualifier un petit peu la situation de la lutherie aujourd'hui en France d'un point de vue économique ?
Alors, c'est très varié. Je pense que chez les luthiers, il y a des gens qui, certains gagnent très 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 bien leur vie, d'autres sont dans des difficultés, grandes difficultés. C'est très variable en fait, parce que ça dépend vraiment de l'orientation que chacun a donnée à son atelier. Voilà, il y a des gens qui ont la fibre du commerce, qui font du commerce d'instruments très onéreux. D'autres sont plus dans le service, donc vont plus être dans des petites réparations. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment très, très, très divers. Ça dépend vraiment des gens, en fait.
L'atelier d'Emmanuel Faya se situe au 3 rue Saint-Gilles, dans le 3e arrondissement de Paris. Elle est spécialisée dans les instruments qui constituent le quatuor à cordes, à savoir le violon, l'alto et le violoncelle. Nous la remercions pour sa disponibilité et le temps qu'elle nous a accordé pour cet entretien dans le cadre de la semaine thématique « Les mains ont la parole » sur la grille des programmes d'Aligre FM 93.1. Pour la deuxième partie de notre émission, je vous propose de rester en compagnie des cordes, mais d'y joindre la voix humaine, celle du baryton allemand Matthias Görne. Il s'agit de quatre leaders de Schubert, arrangés pour quatuor à cordes par Raphaël Merlin, le violoncelliste du quatuor ébène qui interprète ces quatre pièces, en compagnie également de Lorraine Durantel à la contrebasse et qui double la basse du violoncelle. Vous entendrez successivement Der Tod und das Mädchen, Der Jüngling und der Tod, Attis et Der Liebliche Stern. Quatre leaders extraits d'un disque publié chez Erato.
Vorüber, wie will der Knochenmann, ich bin doch nun die Liebe und rühre mich nicht an, und rühre mich nicht an. Gib deine Hand, du schön und zart. Freut und komme nicht zu Strafe.
Als Priester ihr ein,
d'entendre successivement Der Tod und das Mädchen, Der Jüngling und der Tod, Attis et Der liebliche Stern de Franz Schubert, réarrangé Pourquoi tu raccordes et baryton, C'était le baryton allemand Matthias Görneux, le quatuor Eben et Lorraine Durantel à la contrebasse. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Je rappelle que vous pouvez la retrouver en podcast sur le site internet d'Aligre FM. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Au revoir.